Les quatre saisons.
La politique est un cycle.
C'est le virus qui est maître du temps.
Une symphonie perpétuelle de déclarations, de promesses.
That's not Michael Jackson, hein?
Les échecs et les trahisons les plus douloureuses.
Ce sont les aléas de la politique.
Y rencontrent la gloire et les espoirs les plus vifs.
Je jure fidélité au roi.
Aussi sûrement qu'après l'hiver,
dehors.
Reviennent les beaux jours.
Dehors, dehors.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on va revenir sur une traque invraisemblable.
Celle d'un sympathisant d'extrême droite qui a pris les armes.
Tout en obtenant, malgré tout, des soutiens étonnants.
Et ça bouscule la politique belge.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein.
Printemps.
Il tient la Belgique en haleine depuis près de deux semaines.
En ce moment, les forces de l'ordre traquent donc un individu qui serait lourdement armé. Il s'agit d'un ancien militaire.
Des moyens de recherche rarement déployés.
Le terrain est accidenté, le terrain il est compliqué.
Le parc national des Hoge-Kempen mesure près de 12 000 hectares.
Un hélicoptère est envoyé sur place, des dizaines de policiers sont déployés.
Les forces de l'ordre, unités spéciales, lourdement armées, mais aussi des militaires sont prêts à intervenir.
Un profil atypique.
Jürgen Konings est militaire depuis 1992.
Voici le visage de l'homme le plus recherché du moment.
Jusqu'en 2019, il a mené une carrière sans histoire comme fusilier et sniper.
Jürgen Konings, 46 ans, militaire, connu des autorités comme étant un extrémiste de droite.
Un mobile inédit.
Eh bien oui, c'est Mark Van Ranst, hein, ce virologue très en vue durant cette crise sanitaire.
Une défense ébranlée.
Dans toute cette affaire, nous avons commis des erreurs. C'est indiscutable. Et nous le reconnaissons très humblement.
La cavale de Jürgen Konings remue la Belgique au sens propre.
Évidemment, il n'est pas question de laisser un centimètre carré non fouillé.
Comme au sens figuré.
Nous ne pouvons pas tolérer ceci au cœur de notre société et certainement pas tolérer ceci au cœur de nos services de sécurité.
Alors cette semaine, on s'est demandé de quoi l'affaire Jürgen Konings était le symptôme.
L'extrémisme n'a pas sa place à la défense.
Si cette cavale laisserait des traces politiques durables en Belgique.
Nous ne nous laissons pas diviser par des situations comme celle-ci. Merci beaucoup.
Parce que même si on le présente comme un loup solitaire, Jürgen Konings a réveillé en quelques jours une meute de supporters aux abois.
Une centaine de personnes se sont réunies en soutien à Jürgen Konings.
L'affaire pourrait donc prendre ses racines bien plus profondément qu'on ne le pense. Dans les rangs de l'armée d'abord.
Il faut savoir que pour l'extrémisme de droite, nous suivons surtout ce qui se passe à la défense même.
Lui, c'est le général-major Philippe Bouquet, responsable des renseignements militaires.
Nous suivons une trentaine de militaires.
Et c'était une dizaine de jours avant que Jürgen Konings ne tourne le dos à la défense.
Qui pourrait avoir, disons... Il y a un certain phénomène auprès de ces plus ou moins 30 militaires.
Jürgen Konings en faisait partie.
À partir de 2019, il a progressivement été repéré par le SGRS.
Comme l'a expliqué la ministre de la Défense au Parlement.
Notamment pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite.
On n'a pas une préoccupation d'un phénomène d'extrême droite à l'armée, certainement pas.
Très rapidement, son nom est lié à des individus radicalisés.
Des figures de l'extrême droite flamande.
Qu'il a rencontrés sur le terrain, à la défense.
Comme Thomas Boutens, condamné en 2014 pour diffusion d'idéologies violentes et préparation d'attaques visant à déstabiliser le pays.
Jürgen Konings est aussi lié à des groupuscules d'extrême droite, comme la Vlaams Legioen, dont le véhicule avait marqué les esprits.
On voit ici son pick-up siglé d'un symbole nazi.
Ce pick-up faisait partie du cortège organisé par le Vlaams Belang en septembre dernier.
Une manifestation du Vlaams Belang contre la mise en place d'une majorité fédérale Vivaldi.
Et puis, il y a ce groupe Facebook qui vient en soutien à Jürgen Konings.
Soutenir cet homme, c'est soutenir un homme qui menace de blesser et de tuer des innocents.
Certains militaires font partie des fans de cette page.
Ils nuisent ainsi à la réputation et à l'honneur des 25 000 femmes et hommes qui composent la défense.
Mais qui sont tous les autres? les milliers de personnes dont le pouce levé sur Facebook montre une banalisation des dangers de l'extrême droite. Et de quoi l'affaire Konings est-elle alors le symbole ?
Nous ne pouvons pas tolérer ceci au cœur de notre société.
Est-ce un accès de fièvre passager ?
C'est scandaleux, vers où on va ?
Le point culminant d'une trop longue crise sanitaire qui a mis les nerfs à vif ?
Il faut qu'on arrête tout ça !
Ou est-ce une lame de fond ?
Ne nous laissons pas diviser par des situations comme celle-ci.
Un symptôme supplémentaire d'une maladie chronique qui ronge nos démocraties. Et comme chaque semaine, on va prendre maintenant le temps de l'analyse et du décryptage avec toi, Imad.
Salut.
Et avec vous, Benjamin Biard, qu'on accueille aujourd'hui dans les 4 saisons. Vous êtes chercheur au CRISP et parmi vos domaines d'attention, il y a l'extrême droite. Vous êtes aussi docteur en sciences politiques. On va évoquer avec vous les conséquences politiques de cette affaire qui monopolise l'attention des médias et de différents partis politiques depuis plus d'une semaine désormais. D'abord, un mot sur l'événement lui-même, ce militaire d'extrême droite qui littéralement prend les armes. Est-ce que c'était une question de temps pour que ça arrive chez nous en Belgique ?
Alors, on remarque depuis de très nombreuses années maintenant, ce n'est pas un phénomène récent, qu'il y a des individus isolés qui entendent passer à l'acte pour répandre, pour diffuser très largement leur idéologie d'extrême droite. On l'a vu ces dernières années, certains attentats ont été particulièrement médiatisés parce que particulièrement meurtriers. Pensons en Norvège en 2011 avec les attentats commis par Anders Breivik, pensons en 2019 avec Christchurch et les attentats commis par Brenton Tarrant, mais ce ne sont que des exemples parmi d'autres où il y a des individus qui n'appartiennent pas a priori à un parti politique ou à une organisation structurée d'extrême droite, mais qui entendent quand même diffuser cette idéologie. Donc effectivement, on a en Belgique une tentative ici de commettre un attentat également, c'est-à-dire un meurtre ou plusieurs sur la base de motifs politiques visant à défendre cette idéologie d'extrême droite, on peut très bien penser qu'il y aura une influence de cette personne, de cette action, sur d'autres individus. Et on le voit déjà, notamment à travers les réseaux sociaux. Il est déjà, d'une certaine manière, héroïsé, comme on le dit parfois, dans le sens où il s'agissait d'un individu isolé, d'un militaire seul, a priori, dans sa caserne, et qui a réussi, ces derniers jours, à mobiliser de très nombreuses personnes, jusqu'à 45 000 personnes sur une page Facebook, par exemple, plusieurs centaines de personnes lors de marches en soutien à cette personne. On voit qu'il a une capacité, si pas d'attraction en tout cas, de rassembler certaines personnes, pas nécessairement par rapport à ce qu'il veut faire, mais par rapport aux raisons, aux motifs qui le poussent à commettre de tels actes, c'est-à-dire une méfiance à l'égard du système politique, à l'égard de la démocratie et plus fondamentalement à l'égard de nos dirigeants.
Alors, au niveau politique, tous les yeux sont tournés sur le Belang, évidemment, le Vlaams Belang. On a vu Tom van Grieken, le président du Belang, se désolidariser de Jürgen Konings, mais ne pas nécessairement condamner les quasiment 50 000 personnes qui soutenaient Jürgen Konings sur Facebook. C'est une position qui est quand même assez inconfortable pour le Belang.
Alors, Tom van Grieken et le Vlaams Belang, effectivement, sont dans une position relativement délicate, dans le sens où le Vlaams Belang réussit à opérer un retour sur l'avant-scène politique de manière incroyable depuis 2018 et les élections locales et provinciales, mais aussi 2019, où il devient le deuxième parti de Flandre. Et vraisemblablement, un sondage il y a encore quelques jours de nous l'indiquer, le Vlaams Belang serait le premier parti de Flandre si nous avions aujourd'hui des élections. Donc il y a une position confortable pour lui, avec en ligne de mire 2024 et sa volonté de rompre le cordon sanitaire pour accéder pour la première fois au pouvoir en Flandre. Mais en même temps, c'est le résultat d'une stratégie de normalisation, de dédiabolisation entamée par le président actuel depuis plusieurs années. Et il ne faudrait pas que le Vlaams Belang sape cette stratégie en apportant son soutien de manière trop claire, trop affichée à ces personnes qui soutiennent Jürgen Konings. Souvenons-nous qu'en Norvège, puisque nous abordions cet exemple il y a quelques minutes, le parti d'extrême droite principal d'alors a connu une défaite électorale ou en tout cas un recul considérable suite aux attentats commis par Anders Breivik en 2011.
On va d'ailleurs écouter Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang. Il était l'invité de la VRT vendredi dernier dans de Afspraak.
Ik denk dat het oproepen tot geweld of doodsbedreigingen ten allen tijde te vermijden en verwerpelijk is. Ik ben een grote voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Van mij mag alles gezegd worden, maar ik trek wel de grenzen van mijn partij. Al 40 jaar lang oproepen tot geweld of overgaan tot geweld kan absoluut niet.
Alors il condamne ici l'appel à la violence, il condamne les violences. Mais est-ce qu'il n'y a pas un double discours, puisque sur le web, il relativisait clairement le comportement d'Jürgen Konings en parlant de lui comme d'un simple militaire qui a écrit une lettre d'adieu. Comment est-ce que vous analysez ce double discours? C'est ménager la chèvre et le chou?
C'est cette question de l'équilibre, effectivement, qu'il est important pour le Vlaams Belang de conserver. D'un côté, condamner la violence, ça participe toujours de cette stratégie de dédiabolisation qui avait déjà été entamée il y a quelques années. Souvenons-nous, en 2016, de Dom van Grieken et des cadres du parti qui sanctionnent trois représentants du parti, parmi lesquels quand même Philippe de Winter, leader historique, parce qu'il avait rencontré des cadres d'Aube Dorée, parti néo-nazi en Grèce. On est toujours dans cette stratégie et en même temps, il profite de ce qui aurait pu n'être qu'un fait divers à la base. Il en profite pour pouvoir rappeler que, tiens, dans sa communication sur Facebook, lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme islamiste, il n'y a pas assez de moyens. Quand il s'agit de lutter contre la drogue, il n'y a pas assez de moyens. Lorsqu'il s'agit de lutter contre d'autres problèmes comme cela, il n'y a pas assez de moyens. Mais lorsqu'il s'agit de lutter contre une personne isolée issue de l'extrême droite, que lui va qualifier sans doute d'identitaire, souverainiste par exemple, alors là, on déploie tous les moyens imaginables. Ça, c'est le discours qu'on retrouve dans le chef du Vlaams Belang, pas seulement, aussi chez Nation, par exemple, pour pouvoir se positionner aussi par rapport à cela et faire porter d'une certaine manière leur discours, leur rhétorique anti-système.
On parle du Belang, mais on doit aussi voir d'autres acteurs importants de la société flamande, des intellectuels. On a vu Rick Van de Waal, le recteur de l'université de Gand, prendre au mot ce que vient de dire, ce qu'on vient d'entendre de Tom Van Grieken, l'appelant à répéter ce qu'il disait à l'antenne, à la télévision, partout où il va, en disant que la violence donc n'était pas une solution. C'était une série de tweets qui ont beaucoup fait réagir, assez négativement, en Flandre et aussi côté francophone. Et Mark Van Ranst, qui est quand même toujours menacé, qui est toujours dans une safe house actuellement, a réagi à ces tweets en disant que, par ailleurs, sur Facebook, le Belang sponsorisait des posts qui étaient, je cite, « des poisons pour la société », que le Belang portait une responsabilité écrasante dans cette histoire. Est-ce que le virologue, est-ce qu'il a raison ?
On est ici évidemment dans un combat politique, notamment facilité par les réseaux sociaux, depuis un certain nombre d'années, où il est beaucoup plus facile effectivement de communiquer rapidement certaines passions, parfois certains point de vue, avant même parfois que certains faits ne soient avérés. Par contre, il est un fait que l'extrême droite, partisane si on parle du Vlaams Belang, mais plus largement, a réussi ces dernières années certaines entreprises d'influence finalement de la société dans son ensemble. Il n'est certes pas au pouvoir, mais par sa force, par ses réseaux notamment, et pas seulement le Vlaams Belang d'ailleurs, par les réseaux aussi de certaines organisations d'extrême droite. Pensons en Flandre à Schildenvrienden, pour ne citer qu'un seul cas. On voit qu'il arrive à pénétrer au sein de la société de telle manière à ce que certaines personnes n'ont plus nécessairement peur de s'afficher auprès d'une organisation d'extrême droite ou de s'afficher ou d'afficher une proximité avec l'idéologie d'extrême droite parce qu'elle a réussi d'une certaine manière à pénétrer au sein de la société beaucoup plus largement qu'il n'y a 30 ans par exemple.
Aujourd'hui, 45 000 personnes n'hésitent pas à liker une page qui soutient Jürgen Konings. C'est une banalisation qui est le fruit de ce travail d'influence des partis d'extrême droite des dernières années.
Alors, il y a de cela, ce n'est certainement pas la seule raison, mais il y a de cela. Nuançons peut-être en disant que sur 45 000 personnes, seulement quelques centaines tout au plus se sont effectivement rassemblées pour une marche en soutien à Jürgen Konings. Ça reste important, ça reste non négligeable, mais tout de même, c'est une nuance à apporter, bien sûr. Les personnes qui soutiennent Jürgen Konings vont instrumentaliser ce fait pour pouvoir finalement mieux faire porter leur idéologie d'extrême droite. D'une certaine manière, cela leur permet de dire « Regardez ce à quoi mène cette ostracisation des groupements identitaires d'extrême droite, de droite radicale ou comme on veut les appeler, ça conduit à certains à se radicaliser. Donc c'est une possibilité pour eux de renverser les rôles d'une certaine manière en disant ce qui est en train de se produire aujourd'hui, ce n'est pas le fait de l'extrême droite, c'est le fait des partis traditionnels notamment, des partis dits démocratiques, qui vont contribuer à produire ce type d'individus. Ça, c'est le discours en tout cas d'une certaine extrême droite, bien sûr, mais qui permet de jouer sur ce fait pour pouvoir le monter en épingle et gagner en tout cas en légitimité.
Est-ce qu'on est donc dans une histoire plus conjoncturelle liée à la crise du coronavirus, ou est-ce que ça pourrait profiter à plus long terme à l'extrême droite ?
Ça peut très clairement profiter à l'extrême droite, mais ça ne veut pas dire qu'il a fallu ceci pour que l'extrême droite puisse se développer, s'imposer. Les résultats du Vlaams Belang en 2019 le montrent très bien. Il n'y avait pas de crise sanitaire et de mesures associées, mais le Vlaams Belang a réussi à réaliser une percée électorale tout à fait significative. Skilt en Vrienden, qui n'est créé qu'il y a quelques années, a réussi lui également à rassembler un grand nombre de personnes au sein de cette organisation, par exemple. Donc on voit que l'extrême droite n'a pas attendu la crise sanitaire pour se structurer, notamment parce qu'il y a d'autres crises auxquelles elle peut également faire référence, ou en tout cas qui peuvent la booster, notamment la crise de la démocratie représentative, qui fait qu'un grand ensemble de citoyens ont perdu confiance dans les institutions démocratiques, dans le fonctionnement même de la démocratie représentative. Et ça, c'est un élément fondamental aussi, pas seulement le seul, mais aussi pour comprendre pourquoi un certain nombre de citoyens rejoignent des thèses de l'extrême droite, les idées d'extrême droite, éventuellement des organisations d'extrême droite, et éventuellement aussi vont voter pour un parti d'extrême droite lors d'une élection.
Vous pensez que le Belang, qui était à assez haut niveau en 2019, peut encore progresser aux prochaines élections ?
Ah, si on en croit les sondages, en tout cas, vraisemblablement, oui, très clairement. Est-ce qu'il y aura une majorité suffisante pour former un gouvernement avec la NVA ? C'est encore difficile à dire, en tout cas, il est encore un peu tôt, mais c'est la volonté, en tout cas, du Vlaams Belang, c'est de participer concrètement au pouvoir en 2024. C'est ce qu'il prépare, en tout cas, avec un certain sérieux, donc c'est quelque chose bien sûr à garder en tête. Une autre possibilité serait que le Vlaams Belang siège dans l'opposition mais apporte son soutien à un gouvernement éventuellement minoritaire. Alors ça nécessiterait bien sûr des accords préalables, ça permettrait à des partis plus classiques de ne pas s'afficher trop proche du Vlaams Belang, mais ça permettrait pour le Vlaams Belang, en tant que parti d'opposition, de quand même exercer une influence assez considérable sur les politiques publiques.
Et est-ce que côté francophone, puisqu'on a beaucoup parlé de l'extrême droite en Flandre, est-ce qu'il y a lieu de penser qu'il pourrait y avoir une progression aussi des idées d'extrême droite à la faveur de la crise sanitaire ?
Alors, on voit en tout cas qu'il y a des collectifs ou des organisations qui parviennent à se structurer, à se rassembler depuis le début de cette crise sanitaire, bien sûr. L'extrême droite tente de s'organiser, de se structurer en Belgique francophone aussi depuis bien plus longtemps. Le Front National, qui n'existe plus maintenant depuis plusieurs années, a tenté, sans doute un des partis qui a le mieux réussi, bien que ça reste à relativiser, bien sûr, sur ces 30 dernières années. Mais il est difficile depuis de très nombreuses années pour l'extrême droite de se rassembler, de s'organiser. Ça ne veut toutefois pas dire qu'elle en est incapable ou qu'elle n'y arrivera jamais. Peut-être deux exemples permettent d'illustrer ceci. Le premier est l'exemple allemand avec le parti d'extrême droite AfD qui parvient, alors qu'il est créé en 2013, à s'imposer sur la scène politique allemande en un laps de temps très très court, puisque l'Allemagne n'avait plus connu de présence d'un parti d'extrême droite au sein de son Parlement fédéral depuis la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième exemple est le cas espagnol, où là aussi le Parlement national n'avait plus connu la présence d'un parti d'extrême droite en son sein depuis la chute de la dictature franquiste, et où pourtant, créé également en 2013, un parti d'extrême droite, Vox, parvient là aussi à gagner une importance notamment institutionnelle au sein du Parlement national, au sein de parlements régionaux, notamment en Catalogne, notamment en Andalousie, en un laps de temps très court. Donc effectivement, la Belgique francophone n'est pas immunisée contre le développement d'organisations d'extrême droite, parce que si elle n'est pas encore structurée, organisée aujourd'hui, en tout cas de manière importante, l'idéologie d'extrême droite, elle, est bien présente en Belgique francophone.
Alors quels sont les obstacles alors, à votre avis, qui empêchent la Belgique, enfin qui fait que la Belgique est une exception quasiment en Europe occidentale ?
Alors, ou en tout cas la Belgique francophone, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Je pense le premier, c'est le cordon sanitaire médiatique qui empêche à certains représentants de l'extrême droite de donner une interview en direct ou de participer à un débat au sein des médias, je dirais, traditionnels. C'est un élément qui, certainement, contribue à réduire la visibilité des organisations d'extrême droite, mais aussi de contrecarrer leur potentielle tentative de se normaliser, parce que ça contribue à renforcer toujours cette étiquette de parti antidémocratique notamment. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'extrême droite est très fragmentée et a des difficultés depuis déjà très longtemps de se rassembler, de se structurer autour d'une personne, d'un leader suffisamment charismatique. Et donc, ça contribue bien sûr à l'affaiblir aussi, puisqu'il y a une certaine concurrence, pas nécessairement idéologique, mais notamment organisationnelle, voire personnelle, qui s'opère en Belgique francophone au niveau de l'extrême droite.
Alors, vu l'absence structurelle d'extrême droite en Belgique francophone, est-ce qu'on peut se dire que d'une façon ou d'une autre, le PTB pourrait récupérer ces voix qui n'iront certainement pas aux partis traditionnels qui ont participé, entre autres, aux différentes décisions de la crise sanitaire?
Alors, un point commun entre le PTB et le Vlaams Belang ou entre d'autres formations d'extrême droite, c'est le fait qu'il s'agit de partis politiques capables, en tout cas, de surfer sur une certaine méfiance de la population à l'égard de la démocratie et des représentants. Et donc, en pouvant mobiliser un certain nombre d'électeurs, un certain type d'électeurs, je dirais même, ceux qui ont un degré de confiance moins élevé à l'égard de la démocratie, on a ici des partis politiques qui tendent à se ressembler, mais évidemment avec ce point d'attention qu'il s'agit de partis qui développent des idéologies effectivement, évidemment, très différentes, aux antipodes l'une de l'autre, mais qui tout de même parviennent à attirer le même type d'électorat au regard de cet élément précis.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expertise au sujet de l'extrême droite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des 4 saisons. À bientôt. Salut.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi, mis en musique par Jérémy Boquet.